franceinter.fr.
Écoutez la glace s'écouler, le projet Resolve sur le glacier d'Argentière est aujourd'hui à la une de la science.
Ici, on est au sommet des Grands Montais. C'est le départ des pistes mythiques des Grands Montais, ce qu'on appelle la piste du point de vue, qui donne accès au glacier d'Argentière.
Tu prends les crampons tantôt, hein. Tu mets un fil orange là, parce que la neige elle fout le camp, mais si on arrive à la retenir un peu là...
Voilà, depuis le 26 avril, le glacier d'Argentière dans le massif du Mont-Blanc est le glacier le plus surveillé de la planète. Un groupement de chercheurs suisses et français y ont installé sur ses pentes donc un arsenal de capteurs de précision pour tenter de comprendre la fine mécanique de son glissement. Et Axel, pour discuter de ce projet nommé Resolve, on accueille notre invité.
Oui, en duplex depuis les locaux de France Bleu Isère, nous recevons le glaciologue et sismologue Florent Gimbert. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur pour le CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble et vous avez piloté cette expérience, 12 capteurs enfouis dans la roche du glacier, sous le glacier, une centaine en surface, un radar et des balises GPS. Alors quel est le but de cet arsenal technologique, on peut le dire comme ça, hein ?
Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu un lourd arsenal. L'objectif, c'est vraiment d'écouter le glacier partout où on peut l'écouter et surtout essayer d'englober tout son volume pour comprendre comment il se comporte et notamment cibler les processus qui contrôlent sa dynamique à partir donc de l'étude fine du champ d'onde qui génère, d'onde sismique.
Alors, quelles sont les grandes questions auxquelles on n'a aucune réponse concernant l'écoulement d'un glacier qui sont des objets très étudiés quand même par ailleurs.
Oui, alors ça fait longtemps qu'on étudie l'écoulement des glaciers et leur fonte. Ce qui se passe, c'est que en s'écoulant, en fait, les glaciers amènent de la glace qui est froide, donc dans des zones froides, vers des zones chaudes. Et donc plus le glacier s'écoule vite, en réalité, plus il amène rapidement de la glace vers des zones où elle va fondre. Et donc, en globalité, plus le glacier va fondre rapidement. Donc, il est vraiment essentiel de comprendre la dynamique. On en comprend une certaine partie, notamment les aspects de déformation de la glace à l'intérieur du glacier, qui en fait peuvent se décrire assez classiquement avec des lois de viscosité, qui font intervenir la viscosité de la glace. Mmh. Mais il y a une deuxième composante qui en fait est plus incertaine et qu'on souhaite vraiment étudier spécifiquement dans ce projet, qui est la capacité du glacier à glisser sur son socle rocheux, donc à cette interface entre la glace et la roche. Quels sont les processus qui vraiment contrôlent ce glissement et comment ces derniers en fait varient à la fois dans le temps. C'est pour ça qu'on a des observations qui sont très résolues temporalement, mais aussi spatialement, puisqu'on sait qu'il y a des variations spatiales conséquentes et qu'on veut aussi étudier à partir de ce réseau à assez grande échelle.
D'où la partie innovante de votre expérience, c'est tous ces sismomètres que vous avez installés. La glace tremble alors en continu quand elle s'écoule ?
Oui, en fait, elle tremble et puis elle tremble de plusieurs manières. En fait, on voit des petits signaux très impulsionnels, c'est-à-dire des signaux très court terme, en fait, qui s'apparentent à des phénomènes de rupture, qui en fait sont très similaires à des séismes dans la croûte terrestre. Et ces événements, ils sont très courts, assez petits, mais il y en a plein. Et il y en a surtout beaucoup à la base, donc ce qui veut dire que à la base des glaciers, il y a un glissement qui est pas seulement continu et stable, il y a aussi des instabilités qui se créent. Et tout l'enjeu, c'est de comprendre si ces instabilités peuvent contrôler ou pas le glissement global du glacier. Et puis il y a d'autres types de signaux qui sont plutôt plus continus dans le temps, en fait, qu'on appelle bruit sismique. Et qui, eux, dans le cas des glaciers, sont majoritairement contrôlés par les écoulements fluides, c'est-à-dire l'eau qui va en fait percoler à l'intérieur du glacier et puis s'écouler à la base du glacier. Et en fait, on les entend à travers les ondes sismiques, un peu comme on entendrait l'eau s'écouler dans une rivière, lorsqu'on se promène à côté. Et l'idée là, à partir de ce bruit ambiant, c'est de relocaliser les sources de bruit d'écoulement fluide et de voir comment ces dernières varient dans le temps et affectent le glissement basal, puisqu'on sait que l'hydrologie a un rôle prépondérant dans la lubrification de l'interface entre la glace et la roche, et donc dans le contrôle du glissement sous-glaciaire.
Donc Florent Gimbert, encore une semaine d'expérience, c'est ça ? Et ensuite, ce sera la récolte des données ?
Ouais, c'est ça. Alors, on a eu un mois d'acquisition continue, donc depuis le 26 avril, et puis la semaine prochaine, on va récupérer tous les instruments sur le terrain.
Florent Gimbert, on sait que le mouvement des glaces, par exemple en Arctique, est important pour estimer la montée des eaux due au réchauffement. Est-ce que votre expérience va nous aider à faire des modèles climatiques plus sûrs, plus précis ?
Alors en fait, c'est l'idée, hein, à plus long terme. L'idée vraiment dans cette manip, c'est d'aller caractériser finement des processus pour construire ensuite des lois physiques qui nous permettent de les représenter dans des modèles. Et effectivement, la finalité, c'est en fait un travail de collaboration avec des gens qui font du modèle plus grande échelle sur les calottes polaires, que ce soit en Antarctique ou au Groenland, et pour lesquels on a besoin de lois physiques assez bien contraintes. Seulement, sur ces endroits-là, on a beaucoup de difficultés à faire de l'observation ciblée comme on peut en faire chez nous dans les Alpes. Donc l'idée, c'est de contraindre des processus dont on sait qu'ils opèrent au pôle, de manière à construire des lois physiques qu'on peut appliquer dans ces zones, et donc mieux représenter la modélisation des glaciers, leur devenir dans le cadre du changement climatique, et leurs effets sur les changements d'élévation du niveau marin.
Une dernière question. Vous êtes monté à 2400 mètres d'altitude avec 20 scientifiques pour cette expérience. Certains n'avaient jamais mis les pieds sur un glacier. Est-ce que vous vous êtes entraîné avant ?
Alors, il y en avait dans l'équipe qui était assez habitués à aller sur les glaciers. Effectivement, il y en avait d'autres qui n'avaient jamais mis les pieds sur les glaciers. Pour ça, on a fait appel à des guides, en fait. Donc, ouais. Eux, ils ont pu un petit peu former les gens sur place quand ils sont arrivés, et puis s'assurer que pendant l'instrumentation, on faisait les choses, disons, en toute sécurité.
Merci en tout cas Florent Gimbert pour ces précisions. Vous êtes donc glaciologue et sismologue à l'Institut des géosciences de l'environnement. Et merci aux équipes de France Bleu Isère qui nous ont permis ce duplex depuis Grenoble. Merci à vous. Et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, toujours dans les glaces, le programme international Ice Memory a annoncé hier sa nouvelle mission, extraire des carottes des glaciers les plus exposés justement au réchauffement climatique pour les stocker en Antarctique. L'objectif étant de faire du sixième continent la première bibliothèque mondiale d'archives glaciaires. Les carottes de 150 à 240 mètres seront prélevées dans les montagnes de Sibérie et du Caucase, analysées en laboratoire et stockées. Pour les glaciologues, l'étude fournira de précieuses informations sur plusieurs aspects liés justement aux changements environnementaux. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les suppléments en vitamines et minéraux les plus connus n'apportent aucun bénéfice conséquent pour la santé. C'est une étude réalisée par l'hôpital Saint-Michel à Toronto qui démontre que les apports en calcium ou en vitamines C et D n'ont aucun effet bénéfique sur la prévention des risques cardiovasculaires, crise cardiaque ou AVC. Seule la vitamine B9 aurait montré des effets positifs. Et puis comment font les phasmes, ces insectes qui ressemblent à des branches d'arbres, pour se propager dans la nature? Eh bien la réponse est simple, en se faisant manger par les oiseaux. C'est ce qu'explique une équipe de chercheurs japonais. Les biologistes ont découvert que les œufs des insectes sont particulièrement résistants à la digestion et peuvent éclore une fois rejetés dans les excréments de l'animal, ce qui rappelle la méthode de dispersion employée par les fleurs, un comble pour cet insecte morphologiquement très semblable à une plante.